Chapitre 47. Anna Eva Bergman repart sans cesse de zéro. Ce professeur de français, Mona ne l'aimait définitivement pas. Dès qu'elle avait cours avec lui, son ventre se nouait et elle se prenait à souhaiter qu'il soit absent, malade, pire encore. Des nausées la saisissaient à l'idée d'avoir mal préparé son exercice de vocabulaire ou d'orthographe, alors même qu'elle maîtrisait ses disciplines à la perfection. Mais avec lui, cela ne suffisait pas. Cruel, il avait sans cesse un mot dur et la punition facile pour un oui ou pour un non. Dès lors, Mona n'apprenait pas ses leçons. Elle les ruminait. Elle avait si peur d'une remontrance qu'elle travaillait pour éviter la sanction plutôt que pour assimiler le savoir. Ce jour-là, elle devait réciter un poème de son choix. Elle en avait sélectionné un parmi les plus difficiles qui soient, mais qu'elle trouvait particulièrement beau. Or, c'était plus fort qu'elle. Il lui était impossible, catégoriquement impossible, d'aller au-delà du 10e vers sur les 14 qu'en comptait le sonnet. Le 11e alexandrin faisait obstacle. Quand, quelques minutes après la sonnerie, elle rejoignit ses camarades déjà assis, un silence de mort régnait, dicté par le professeur arborant sa ridicule lavalière. « Tiens, Mona, » dit-il d'un ton humiliant, « vous voilà enfin. Non, ne vous asseyez pas, puisque vous êtes sur le seuil de la porte, dites-nous votre poème. S'il est bon, vous pourrez gagner votre place. Sinon, ce sera chez le proviseur avec une colle. Nous vous écoutons, Mona. »
« À une passante, de Charles Baudelaire, » lança la jeune fille d'une voix chevrotante.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître.
Eh bien, Mona, nous attendrons la suite. C'est plus la nuit que l'éclair pour l'heure.
La suite du poème. Elle était si belle.
Oh, mais oui, ça y était.
Par une sorte de petit miracle dont la mémoire a l'étrange secret, elle sentit que les 4 derniers alexandrins pouvaient lui revenir. Le verrou avait sauté. Quel soulagement! Sauf que Mona n'avait tout simplement plus envie d'offrir les mots de Baudelaire à ce professeur qui ne les méritait pas. Alors, elle fit quelque chose d'extraordinaire. Elle répéta d'une voix assurée, un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. Et sans rien ajouter de plus, elle partit d'elle-même, vive et intrépide, d'un pas preste et presque volant. Elle zigzaga comme la foudre jusque chez le proviseur pour chercher sa colle. Elle était effrontée et radieuse, et surtout n'avait plus peur de rien. Devant Beaubourg, un garçon avait déposé une immense toile de jute d'environ 6 mètres sur 6 et se mit à peindre dessus, à plat, en étalant à l'aide de chiffons des masses de couleurs sourdes. Le jeune homme était en train de réaliser un portrait. Mais de qui? Chaque seconde qui passait, les traits se révélaient davantage. C'était merveilleux de voir affleurer ainsi, surgissant de rien et allant vers le tout, 2 yeux vifs, une chevelure touffue et crépue, ainsi qu'une épaisse barbe. Henri sourit. Il avait rapidement reconnu l'effigie. Au bout d'une 20aine de minutes, le garçon signa la toile.
« Mesdames et messieurs, » cria-t-il, « voici qu'est apparue sous vos regards la plus grosse tête du monde, 36 mètres carrés. C'était l'apparition de Georges Perec. »
La foule applaudit. Qui était Georges Perec? un écrivain qu'Henri Vuillemin affectionnait et dont les livres étaient écrits selon des contraintes de rédaction parfois abyssales. Par exemple, expliqua-t-il à Mona, Pérec était l'auteur de « La disparition », un roman tout à fait dépourvu de la lettre « E », des centaines de pages sans aucun mot comportant cette voyelle. Et le tout pour raconter l'histoire d'une disparition, elle-même métaphore de la disparition des parents de l'auteur, morts dans les camps de concentration. Mona mit son grand-père au défi.
« Dadé, explique-moi l'œuvre d'aujourd'hui avec une contrainte, toi aussi. Tout en verlan, tiens, ou ce que tu voudras. »
Mais Henri fit un non résolu de la tête. Puis il eut une réponse bien déconcertante. « Non, Mona, non. Je crois bien que c'est plutôt toi qui, encore une fois, saura parler du tableau d'aujourd'hui en étant une digne héritière de Georges Perec. » Mona fit une grimace. Henri reprit. « Et puisque nous avons vu l'œuvre favorite de ta grand-mère la semaine dernière, veux-tu que nous allions voir mon artiste préféré à présent ?» Mona eut un sourire débordant de joie.
« Oh oui !»
On croyait voir une forme purement abstraite tant elle était simplifiée. Une espèce de pentagone irrégulier et convexe noir, étiré sur la vaste hauteur de 180 cm, encore que la pointe n'atteignît pas tout à fait le sommet du cadre, et se découpant sur un fond uniforme blanc. C'était une proue de bateau, mais perçue frontalement, en raccourci, de sorte que l'arête de l'étrave, au lieu de paraître saillante, était écrasée. Les côtés latéraux du pentagone s'avéraient discrètement courbes, mimant de manière épurée la forme d'une coque. Celle-ci, si on voulait l'imaginer plongée dans l'eau, aurait eu une ligne de flottaison qui correspondait à la base du bateau. Il y avait une dynamique entretenue par d'infimes effets d'asymétrie et de décalage. Ainsi, l'angle supérieur gauche était légèrement plus bas que l'angle supérieur opposé qui s'enfonçait de surcroît très délicatement hors cadre, ce qui créait un subtil décentrement. Enfin, ce noir, plus brillant que mat, n'était pas tout à fait uniforme. Il était traversé par des effets de matière, en particulier une oblique, qui densifiait la présence de la proue et sur lesquels la lumière scintillait parfois en fonction de l'angle de celle-ci ou de la position du regardeur dans l'espace. Jamais Mona n'avait autant bougé devant une toile. Elle allait et venait, sautillant parfois, dansant presque, et l'examinait selon une infinité de perspectives. Sans le savoir, elle se conformait à la volonté de son autrice qui exigeait qu'on regarde ses productions en étant mobile plutôt que statique. Henri ne fit en revanche pas un seul pas. Il se sentait fatigué. Il se contenta de goûter le spectacle de Mona qui, en 33 minutes, avait facilement parcouru 1 kilomètre sans jamais quitter le faisceau du chef-d'œuvre d'Anna Eva Bergman. Surtout, il allait dorénavant écouter avec soin chacune de ses phrases pour vérifier son hypothèse quant au secret du langage de sa petite fille.
« C'est comme une grande ombre, Dadé, » finit par murmurer l'enfant.
« Et l'ombre est à l'origine de la peinture, Mona. Son degré zéro, si tu préfères. »«
Comment donc ?»
Durant l'Antiquité, Pline l'Ancien racontait une histoire dont on a souvent considéré qu'elle constitue le mythe originel des arts visuels. C'est celui de Calliroé. Il s'agit d'une femme qui vivait à Sicyone, en Grèce, voilà environ 2600 ans. Calliroé est amoureuse d'un homme qui doit partir pour l'étranger. Elle souhaite conserver une image de lui. Comment s'y prend-elle? Elle trace sur un mur les contours de son ombre portée par la lumière d'une lanterne. C'est aussi simple que cela. L'ombre est en quelque sorte le négatif du modèle, et en fixant avec du charbon de bois sa silhouette, elle en retrouve le positif.
Et est-ce que tu crois que l'artiste connaissait cette histoire?
J'en suis certain, car Anna Eva Bergman, d'origine norvégienne, s'intéressait vivement aux cultures, aux civilisations, aux mystères de l'humanité. Elle avait une curiosité insatiable pour la mythologie. ou plutôt pour toutes les mythologies, pas seulement celles de l'Antiquité gréco-romaine.
Moi, Dadé, quand je pense à la mythologie, je pense plutôt à des tableaux avec des tas de personnages et de détails, comme celui de Poussin sur l'Arcadie, ou celui de Burne Jones avec la roue de la fortune. Ici, ça ressemble plutôt à la croix noire sur fond blanc de Malevitch.
Henri acquiesça. Puis il invita Mona à s'approcher très près du grand tableau. Il lui fit lever la tête pour en examiner la pointe. L'enfant réalisa alors que son corps se trouvait dans la position d'un nageur perdu dans les eaux, flottant à la surface, ou se noyant peut-être, et sur lequel fondrait la proue d'un bateau. « Avec un point de vue aussi écrasant, » reprit Henri. « Rien ne permet de savoir ce qu'est le secret de cette embarcation. Qui donc en est le capitaine? Qui l'habite? Impossible à dire. Dès lors, ce n'est plus une barque qui s'avance, mais une énigme. Et avec elle, tout un cortège d'espoir et de peur mêlés. Dans le folklore scandinave, les barques étaient très importantes. On les associait à la mort qui rôde. On disait que les fantômes de pêcheurs engloutis par les flots venaient hanter les vivants. Avec ce tableau, Anna Eva Bergman fait référence à ces légendes.
Encore un tableau qui fiche la trouille, alors.
À ceci près que dans la mythologie nordique, il existe également un bateau fabuleux baptisé Skidbladnir, le meilleur des vaisseaux. Il avait été fabriqué très ingénieusement par deux nains avec de minces morceaux de bois. Il pouvait transporter tous les dieux, tant il était grand. Mais il y avait mieux. Il pouvait être glissé dans une poche quand il ne servait pas, en étant rabattu sur lui-même, jusqu'à devenir tout petit et très compact, à la façon d'un morceau de tissu.
Waouh ! C'est super, ça ! Je suis sûr que Bergman peint Skidbladnir ici, et qu'on pourrait replier son immense dessin et l'emporter avec nous.
Mais tu l'emportes déjà, Mona.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Tu l'emportes dans ta tête, tout simplement. Une œuvre s'emporte d'autant plus aisément qu'elle est composée de manière harmonieuse et simple, comme la croix noire de Malevitch, ou l'oiseau dans l'espace de Brancusi. Tandis qu'un tableau fourmillant de détails, comme un Vermeer ou un Courbet, ne se laissera pas aussi docilement attraper par l'esprit. Mona comprenait la démonstration de son grand-père. Cependant, quoiqu'elle n'en eût rien dit pour éviter de se montrer arrogante, il lui semblait avoir absorbé chacune des œuvres qu'elle avait vues depuis près d'un an. Tout autant les complexes Vermeer ou Courbet que les schématiques Malevitch ou Brancusi. L'ensemble de ses productions se découpait dans sa mémoire avec une précision presque hallucinatoire.
« Et pourquoi tu l'aimes tant, Anna Eva Bergman, Dadé ?»«
Parce que c'était quelqu'un de très libre. Dès les années 1920, elle jouait au tennis, elle allait au cinéma, avait une allure de garçonne. » Elle a passé son permis de conduire en 1931 à 22 ans, à une époque où quasi aucune femme ne l'avait. Dans la première partie de sa vie, et notamment dans les années 1930, elle s'imposa comme une illustratrice et une caricaturiste pleine d'esprit, voire insolente. Elle n'avait pas hésité à se moquer des nazis, par exemple. Mais la Seconde Guerre mondiale l'a considérablement affectée. Elle fait partie de ces artistes, comme l'Américain Barnett Newman et bien d'autres, qui ont vu le monde réduit à l'état de ruine au lendemain de 1945. On ne pourrait plus jamais créer comme avant. Il fallait repartir de zéro, selon l'expression de Barnett Newman.
Comme si j'appuyais le bouton « Reset » de l'ordinateur.
Oui, c'est à peu près cela.
Et Anna Eva Bergman changea du tout au tout son programme artistique. Elle évacua à jamais la figure humaine de son œuvre et réduisit ses motifs à un vocabulaire très élémentaire. Des pierres, des stèles, des arbres, des astres, des falaises. Elle ne représentait plus que des sujets issus de la nature et du cosmos.
Très souvent, elle utilisait des feuilles de métal dans ses tableaux. Et surtout, elle construisait ses tableaux en s'appuyant sur le nombre d'or, égal à 1,618. Un coefficient de proportion parfaite.
« Ça y est, Dadé, cette fois, je suis perdu. »«
Je reconnais que ce n'est pas facile à expliquer. Mais pour simplifier, dis-toi qu'Anna Eva Bergman faisait de très nombreuses études géométriques pour élaborer ses œuvres. Elle recherchait des formes où le rapport entre la petite et la grande partie était équivalent à celui entre la grande partie et le tout, ce qui donne le sentiment d'une harmonie parfaite, à l'infini. Mona se concentra. Elle avait une perception tellement aguerrie qu'elle apprécia intuitivement, en deçà de tout encodage arithmétique, les embryons de divines proportions dans le tableau. Mais, dotée d'une longueur d'avance sur son grand-père grâce à son œil exceptionnel, elle voyait aussi comment l'artiste avait joué de cette règle, l'avait déformée, pour éviter une abstraction trop figée. Mona se représentait mentalement la proue noire en un état liminaire, celui d'un pentagone régulier. Elle n'aurait pu viser plus juste, car sans qu'elle le sache, ce motif avait été à la base de toutes les recherches d'Anna Eva Bergman sur le nombre d'or. Mona visualisa ensuite la lente transformation de ce pentagone dans l'espace et la façon dont, en s'étirant dans la hauteur, il se métamorphosait en une étrave de navire qui, elle-même, aurait pu devenir, à force de légères variations, une stèle, un pic de montagne, un horizon ou une maison. Repartir de zéro. Toujours repartir de zéro. C'est ça la leçon de Bergman, glissa Mona sûre d'elle. Repartir de zéro pour pouvoir tout reconstruire.
Car rien ne fait naufrage ou ne se plaît aux cendres, et qui sait voir la terre aboutir à des fruits, point ne l'émeut l'échec, quoiqu'il ait tout perdu. Sur ces vers de René Char, Henri gagna la sortie du musée en attrapant sa petite fille par la main. Mona méditait. Au lieu de demander à son grand-père l'explication du poème qu'il avait déclamé, elle en chercha elle-même des bribes de sens. Elle s'interrogea surtout sur la signification de « tout perdre ». Que serait-ce pour elle ? Perdre Dadé, papa, maman, Cosmos ? Les perdre tous d'un coup ? Perdre la mémoire, perdre la vie ? Perdre la vue ? Ils arrivèrent à Montreuil. L'enfant n'avait plus ouvert la bouche depuis une heure. Et soudain, l'introduction de la visite lui revint en mémoire.
Dis, avant d'aller à Beaubourg, tu m'as dit que je saurais parler du tableau d'aujourd'hui car j'étais digne du monsieur, tu sais, celui qui a écrit un livre avec aucun E, tu te souviens ?
Georges Perec, La disparition.
Alors, est-ce que j'ai été digne de lui ?
Oui, Mona, tu es bel et bien l'héritière de Georges Perec. Et tout te vient d'une phrase de ta grand-mère. Je t'expliquerai bientôt, très bientôt.
Henri avait enfin percé le secret du langage de sa petite fille, et ce bonheur lui montait aux lèvres sans pouvoir en redescendre.